j'ai peur.
De quoi?
C'est difficile d'être heureux.
Qui saura la comprendre?
J'aime trop m'amuser.
Jolie comme tu es, c'est normal.
Je sais pas. Il y a quelque chose de trop fort en moi qui me pousse à faire des bêtises.
Et Dieu créa la femme sort cette semaine, c'est normal, nous sommes en 1956. Bonjour Daniel Thompson.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter. Daniel, on est très heureux de vous avoir avec nous cet après-midi. Scénariste, réalisatrice, écrivaine, on vous doit les scénarios de La Grande Vadrouille, La Folie des Grandeurs, Rabbi Jacob, La Boum, L'As des As, La Reine Margot et j'en passe. Côté réalisation, on vous doit Fauteuil d'Orchestre, Le Code a changé, plus récemment Cézanne et moi. Et si on vous reçoit aujourd'hui, c'est pour parler de Brigitte Bardot. Vous lui avez consacré une mini-série que vous avez réalisée et qui a été diffusée l'an dernier sur France 2, qui s'appelait Bardot, tout simplement. Déjà, elle représente quoi pour vous, Brigitte Bardot, Daniel Thompson, avant même de faire la série?
Oh ben, elle représente à la fois des souvenirs d'enfance, et puis des souvenirs encore plus tard, et puis, comme le public, si j'ose dire normal, c'est-à-dire qui ne l'a jamais rencontré ou qui n'a jamais côtoyé cet univers, ce milieu, elle représente la révolution absolue qui a eu lieu effectivement en 56 à la sortie de Dieu créa la femme. Je crois qu'aujourd'hui c'est difficile de comprendre l'impact que cette jeune femme, je dirais même pratiquement cette jeune fille, même si elle était mariée avec Vadim déjà à l'époque, a eu sur les femmes en général, parce que évidemment aujourd'hui Brigitte Bardot, elle n'a pas du tout le profil d'une féministe.
Pas vraiment.
Mais elle a été féministe finalement avant l'heure. Elle a été féministe par sa manière de vivre, par sa manière de s'habiller, par plein de choses. Et ça a effectivement une grande influence sur les gamines de ma génération qui étaient plus jeunes qu'elle, mais qui rêvaient d'être comme elle.
La Brigitte Bardot féministe, c'est ce qu'on va expliquer dans cette émission aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est pas l'image qu'on en a en 2024. Les débuts du mythe Bardot avec Daniel Thompson, mais aussi tous les événements marquants de 1956, de la création de la pilule à la naissance de notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière, conçu dans la foulée du bal du 14 juillet de Ponto Combo, où ses parents avaient guinché toute la nuit comme des beaux diables sur Elvis Presley. C'est notre coup de projecteur sur une année absolument mythique. Zoom Zoom Back, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Back, cette déclinaison de Zoom Zoom Zen qui chaque vendredi nous propulse dans une année marquante de l'histoire. Aujourd'hui, direction 1956, MeToo était encore loin puisque Magali Noël, ma grande tante, chantait... Celle-ci, Tati, t'aurais pas pu la chanter en 2024. Mais 1956, c'est aussi évidemment l'explosion d'Elvis. Contrairement à ce qu'affirme encore aujourd'hui notre rédac chef, ne s'est pas inspiré de son idole Eddie Mitchell, c'est l'inverse. Et puis, bien sûr, 56, c'est l'année où Dieu créa la femme. Brigitte Bardot crevait l'écran dans le film de Vadim, l'occasion de revenir sur la bébé des débuts, ce qu'elle a représenté pour toute une génération, les plus jeunes qui nous écoutent, nos amis de la Gen Z, pour qui il n'y a pas eu de star avant Taylor Swift, qui avait de Bardot l'image d'une vieille réac à cariâtre cloîtrée à la madrague, l'avait déjà redécouverte dans la série de Daniel Thompson, notre invité, l'année dernière. Mais bébé est un personnage complexe qui mérite qu'on s'y repenche ensemble. Daniel, vous avez travaillé avec les meilleurs, dirigé les plus talentueux. J'espère encore que ça m'arrivera un jour, mais en attendant, je vais vous présenter mon équipe.
C'est gratuit.
C'est un coup bas.
C'est
absolument
méchant.
Gratuit. Ouais. À commencer par mes fidèles lieutenants. Souvent, à la fin de leur chronique, je leur dis, pour les motiver...
C'était pas mauvais, c'était très mauvais.
Manon Mariani, Quentin Louis, bonjour.
Bonjour.
Et bonjour Mathieu.
Bonjour à tous, bonjour Daniel.
Bonjour, bonjour.
Manon, chaque vendredi, vous nous racontez une toute première fois, et en 56, elle a son importance.
Hein. Notamment pour les femmes, car c'est en 1956 qu'est inventée la première pilule contraceptive. Une révolution, évidemment, mais qui a aussi inquiété les conservateurs qui n'y étaient pas favorables. On revient sur cette première historique en fin d'émission.
Face à vous, Daniel Thompson, ne vous fiez pas à son air juvénile et sa taille qui vous rappellera certainement Louis de Funès. Oh. Il est le plus vieux d'entre nous. À ce stade, la science n'a pas d'explication rationnelle au fait qu'il connaisse par cœur l'intégralité du répertoire de Georges Chelon et que lorsqu'il a bu, au lieu de chanter du Vianney, il chante... Moi, Je penche pour l'hypothèse Hibernatus. Il a dû être congelé dans la glace en 39 et décongelé en 91. Quentin,
pourquoi,
chaque vendredi, je sais pas, une date. Quentin, chaque vendredi, vous fouillez dans les archives de l'INA, alors pas tout seul, vous êtes accompagné par des gens formidables qu'on citera en fin d'émission.
La guerre d'Algérie, la Suisse qui gagne le premier Eurovision à la télé et les Poujadis qui entrent à l'Assemblée. Bienvenue à nouveau en 1956 pour cette chronique complètement aux archives.
Tout à l'heure, on fera aussi un tour en salle. Quels films ont marqué 56? Thomas Croisière le sait, il vendait justement des Esquimaux à l'entracte à cette époque. Il nous raconte 56 au cinéma. En fin d'émission, nous serons rejoints par Charles Nouveau, dont je suppute que le papa était un grand admirateur de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, notre fil rouge cet après-midi. Daniel Thompson, on remonte donc jusqu'en 1956. Déjà, est-ce que vous avez gardé un souvenir de la sortie de ce film mythique et Dieu créa la femme?
Oui, moi j'en garde un souvenir. Moi j'ai 14 ans à l'époque. Mais enfin, j'ai des parents qui sont comédiens. Et puis mon père, il est avec une femme qui est un agent qui s'appelle Olga Horstig, qui se trouve être aussi l'agent de Brigitte Bardot, qui d'ailleurs a un rôle important dans la fameuse série dont vous parliez, que j'ai écrit et réalisé avec mon fils Christopher. Vous parlez de votre équipe, je parle de la mienne.
Vous avez bien raison.
cette fameuse Olga, qui est d'ailleurs plus tard, quand je suis devenue une femme et que j'ai commencé à travailler, est devenue aussi mon agent, nous parlait bien sûr beaucoup de Brigitte. On avait l'impression de vivre un tout petit peu dans son intimité, malgré la grande discrétion d'Olga. Mais voilà, c'est un personnage qui était quand même proche de l'univers dans lequel j'étais élevée, puisque j'étais encore une gamine.
Et alors, en quoi la sortie de ce film a été une révolution? Il faut le dire aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, parce que...
Alors, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que le film n'a pas très bien marché en France.
Oui, à sa sortie.
Il a été absolument massacré par la critique. Il y a seulement un jeune critique qui a encensé le film, qui s'appelait François Truffaut. Mais le reste de la critique a été insultant, mais littéralement insultant.
Il disait quoi?
Il disait qu'elle avait l'air d'une boniche. Déjà, c'était vraiment des formules qui, Dieu merci, ont disparu aujourd'hui. Qu'elle était vulgaire, qu'on comprenait pas comment Vadim osait exposer sa femme d'une manière aussi indécente. Enfin, quand on voit le film aujourd'hui, on en a vu d'autres. Donc, effectivement, ça a été très curieux ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, quelques mois plus tard, grâce au producteur absolument génial, Raoul Lévy, qui était le producteur du film, qui était parti avec ses bobines aux États-Unis pour montrer des morceaux du film au président de la Columbia, qui était tombé amoureux des images et de cette fille absolument insensée qu'il voyait sur l'écran, a décidé de sortir le film dans les grandes villes d'Amérique, ce qui ne se passait jamais à l'époque, parce que les films français ne passaient littéralement pas aux États-Unis. Et là, il s'est passé un phénomène démentiel. On peut voir des images, Lina en a beaucoup, avec des queues monumentale dans toutes les grandes villes d'Amérique, des interdictions dans les prêches, dans les églises, évidemment, de là-bas. Alors, bien sûr, dès qu'on interdit un film, tout le monde y va. Dans les quartiers chauds du sud, on l'interdisait à la communauté noire d'y aller parce que c'était pas bien pour eux. Enfin,
c'était bien pour personne à l'époque.
Mais puis, ça, il y a une déferlante. C'est parti donc au Japon, en Amérique du Sud, partout. Et en fait, en 6 mois, finalement, le destin de cette femme s'est un petit peu transformé en un mélange de contes de fées et de cauchemars.
Ça, on va y revenir sur l'aspect personnel pour Brigitte Bardot elle-même, mais vous diriez que c'était quoi le propos du film « Et Dieu créa la femme », Daniel ?
Mais le propos du film, justement, c'est en ça qu'on peut revenir au féminisme dont je parlais, c'est que c'est la liberté de cette héroïne. La liberté par rapport justement au fait qu'elle choisit les hommes, qu'elle les jette, qu'elle se balade pieds nus, qu'elle s'habille n'importe comment, qu'elle se coiffe pas, qu'elle se maquille vaguement, bizarrement, ou trop ou pas assez. Tous les carcans qui quand même dans les années 50, si vous pensez que les années 50, on est 50 ans après 1900, on est 50 ans après le moment où les femmes étaient encore avec des corsets qui les paralysaient, qui les torturaient. On est encore au fait que tout à coup, si on soulevait une robe et qu'on voyait la cheville d'une femme, tout le monde était bouleversé, vous vous rendez compte?
C'est tout près.
Et tout à coup, on voit cette fille sublime, avec ses robes moulantes, qui sort de l'eau avec une robe qui lui colle à la peau, où on voit toutes ses formes. C'était hallucinant. On a encore, effectivement, il n'y a vraiment que les gens de ma génération qui peuvent se souvenir du choc incroyable que ça a produit.
1956, c'est Bébé, mais c'est aussi GB, Georges Brassens. Zoom Zoom Zen revient juste après Les Amoureux des Bancs Publics sur France Inter.
Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elle cousant, lui fumant, dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand la sainte famille machin croise sur son chemin deux de ses mal appris, elle leur décoche hardiment des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
Vous trouvez que cette semaine, on a trop parlé de Michel Barnier dans cette émission, trop de politique, pas assez de glamour? Je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi aujourd'hui, on remonte loin dans le temps. 1956, Michel Barnier avait à peine 5 ans, il était tout mignon et potelé. Et cette année-là, surtout, Dieu créait la femme. On revient sur la sortie du film culte de Vadim avec l'immense Daniel Thompson. Daniel, la mini-série que vous avez réalisée pour France 2 l'an dernier s'intéresse au début de Brigitte Bardot. Vous dites que c'est l'histoire d'une jeune fille qui, comme toutes les autres, cherche l'amour et la réussite, mais dont les rêves se fracassent contre l'hystérie qu'elle déchaîne. Elle a pas suffisamment été entourée, protégée, Bardot, du succès monstrueux qu'elle a eu?
Si, elle avait une protection, elle avait des parents donc, qui étaient quand même très proches, elle avait Vadim qui était donc son mari, elle avait ses fameux agents dont je parlais, Olga Horstig, elle avait sa petite sœur qu'elle aimait beaucoup, c'est pas du tout une fille comme ça un peu abandonnée à elle-même, pas du tout, mais ça a dépassé tout. Ça a dépassé. Aujourd'hui, vous savez, tout le monde est un peu célèbre, on clique, on voit tout ce que tout le monde fait, tout ce que tout le monde bouffe, les soirées où ils étaient la veille, enfin bon. À l'époque, il y avait qu'elle, et elle ne pouvait plus, du jour au lendemain, comment voulez-vous protéger quelqu'un qui, tout à coup, veut aller s'acheter un soutif dans un magasin, et ça crée une émeute. Ça change la vie.
Intéressant ce que vous dites, Daniel Thompson. Aujourd'hui, il y a une dilution de la notoriété, c'est-à-dire qu'il y a plein de petites stars, mais il n'y a plus de grandes stars. À l'époque, elle était quasiment toute seule.
Elle était quasiment toute seule. Alors, il y avait Marilyn, qui était plus âgée, et puis qui rentrait un petit peu aussi dans la tradition des vampes. Un peu inatteignable, avec, vous savez, c'est l'époque de toutes ces femmes sublimes, avec des robes extraordinaires, les gentlemen prefer blondes, les bijoux, les coiffures blondes, complètement teintes et tout ça. Mais c'est elle est arrivée, mais alors elle a bousculé tout ça, elle était comme les filles dans la rue, qui pouvaient en fait essayer de lui ressembler.
Et on sait comment elle l'a vécu cette période-là, Brigitte Bardot?
Je crois qu'elle ne l'a pas bien vécu, elle n'a jamais bien vécu ça. Elle a bien vécu d'autres choses, elle a eu une vie quand même avec beaucoup de joie et beaucoup d'épisodes formidablement intéressants. Donc c'est une vie très extraordinaire. Mais elle n'a jamais bien vécu, tout à coup, alors qu'elle est le symbole de la liberté, ben ça devient pour elle une prison.
Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, je disais peut-être, pour ça caricature un petit peu, mais l'image qu'a aujourd'hui Brigitte Bardot, ses accointances avec le Front National, c'est son côté un peu réac ou carrément réac, on a du mal à imaginer qu'elle a initié quelque part ou qu'elle était aux avant-postes de la libération des femmes. Mais c'est ce que vous nous dites, Daniel Thompson, quelque
vous
part.
Vous savez, j'avais entendu le moment où on était justement en train de travailler sur notre scénario, il y a eu une interview de Michel Perrault. qui disait que quand elle était jeune agrégée, donc c'est une grande intellectuelle française que nous admirons tous, et qu'elle était allée voir ce film, elle était une jeune femme, elle était allée voir ce film avec son mari, elle était sortie de là en disant mais il se passe quelque chose d'extraordinaire. Donc elle avait senti que cette fille, elle allait quand même bousculer beaucoup de choses, voilà, par cette différence incroyable qu'elle affichait, voilà, effectivement, les scandales, la liberté de choisir des hommes. Enfin, c'était quand même encore une époque où on parlait de femmes faciles, oui. où on parlait évidemment, vous parliez de la pilule, c'est très intéressant, si ça
en parle, oui.
Parce que voilà, moi je fais partie d'une génération qui a été élevée, et Dieu sait si ma mère était ouverte, etc., mais enfin, c'était la terreur de, comme on disait tomber enceinte, déjà ça c'est l'expression. Une expression qui, oui. qui est vraiment désagréable à entendre, mais c'est tout ça, elle a d'ailleurs subi des avortements clandestins, puisque c'était complètement clandestin. Elle a vécu toute cette époque, et c'est une époque quand même charnière par rapport à justement ce qu'elle a pu changer.
Du lundi au jeudi, il est complètement à la rue. Mais cette semaine, comme avec la tempête cœur qu'il a surtout fini complètement trempé, il se réjouit de cette émission d'intérieur. Hein. Vous avez chanté sous la pluie cette semaine?
Ouais, un petit peu. Hein, je chante tous les jours. Hein.
Comme nous tous, mais vous y passez un peu plus de temps. Quentin, c'est complètement sec que vous avez mené l'enquête à l'INA cette fois.
11 avril 1956, la guerre d'Algérie a débuté il y a un an et demi. Le gouvernement rappelle 70 000 réservistes.
On sait également que les premières mesures décidées par le gouvernement sont en cours d'exécution. Déjà, les renforts arrivent à Alger. Un pont aérien va être établi qui poursuivra sans discontinuité ce transfert de force. Il s'agit avant tout de maintenir l'ordre sans lequel il n'y aura ni réconciliation, ni pacification. C'est la volonté affirmée du gouvernement.
Chose intéressante, avec la musique que vous entendez, les actualités françaises qu'on entend étaient diffusées au cinéma, avant les films. D'où la musique, c'est d'ici d'où proviennent la plupart de mes archives. L'ensemble des troupes françaises passera à 400 000 hommes pour la guerre d'Algérie en juillet 56. Le président du Conseil des ministres, Guy Mollet, s'exprime au déjeuner de la presse régionale.
Le gouvernement sait ce que représente dans une famille le départ du Rappelé. Je fais appel au sens du devoir des Français. Il n'a jamais manqué dans les heures graves. Les hommes des contingents rappelés doivent savoir qu'ils vont en Algérie remplir une mission nationale. Leur rappel sous les drapeaux témoigne d'abord de la volonté de la France de rester en Algérie. La solution du problème algérien ne sera trouvée que dans le cadre de liens indissolubles entre l'Algérie et la métropole.
Le conflit prendra fin en 1962 avec un bilan humain de 500 000 morts, dont 400 000 Algériens. Il faudra attendre 2017, lors de la deuxième visite à Alger, pour qu'Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle, qualifie la colonisation française dans son ensemble de crimes contre l'humanité. 1956, l'émission régionale Provence Magazine, pour eux, c'est la mise en circulation d'une voiture emblématique.
Le domaine de la propulsion terrestre vient de s'annexer la Dauphine, qui après 2 millions de kilomètres d'essais poussés sur toutes les routes et sous tous les climats, a été au palais de Chaillot l'objet de la curiosité générale. Sa vitesse, 115 km/h. Sa consommation, 6 litres et demi.
La Dauphine, une voiture à propulsion qui sera la voiture la plus vendue en France jusqu'en 1961. En août 1956, terminez la bamboche à la cantoche.
À Montgeron, les enfants des écoles primaires sont des enfants heureux. Plus question de cantine, ils vont déjeuner comme des grands au restaurant d'enfants. Un menu scientifiquement équilibré tient compte, en ce qui concerne le choix des boissons, de la dernière circulaire du ministre de l'Éducation nationale qui vient d'interdire dans toutes les cantines scolaires toute boisson alcoolisée pour les moins de 14 ans.
Plus de vin rouge à la cantine, pour les plus petits, ça paraît fou, mais il a fallu attendre 56 pour l'interdire. Pour les copains de plus de 14 ans, ils se contenteront d'alcool léger à moins de 3 degrés, bière, cidre, poiré ou vin coupé à l'eau. Ça fait toujours plaisir. En 1956, pour la première fois, un concours de chant européen.
3 points pour l'Irlande.
Austria, 5 points.
5 points pour l'Autriche.
L'Eurovision fait son apparition le 24 mai 1956 en Suisse, Mathieu, à Lugano. C'est Lys Assia, artiste suisse, qui l'emporte avec cette chanson qui s'appelle Refrain.
Refrain, couleur du ciel, parfum de mes 20 ans. Jardin plein de soleil où je courais enfant.
Et ça applaudit. Le 3 décembre 1956, un prix littéraire.
Le prix Goncourt 1956 a été décerné par 8 voix à Monsieur Romain Gary pour Les Racines du Ciel.
Et bien voilà, vous voyez que les pronostics...
Ma vie a été un effort de ne pas être moi-même, déclare Romain Gary, qui sera le seul écrivain à recevoir 2 prix Goncourt, le deuxième sous pseudo Émile Ajar en 75 pour l'un de mes romans préférés, La vie devant soi.
Quelle originalité,
1956, c'est aussi une année très politique, le 2 janvier, élection législative.
Dans l'hémicycle, anciens et nouveaux députés ont pris place selon leur formation politique, à l'exception des 52 représentants du parti Poujade qui se sont dispersés sur les crêtes pour ne pas siéger à l'extrême droite. Voici ouverte la 3e législature de la 4e République.
Et parmi les 52 députés du parti Poujade d'extrême droite, on note le nom du jeune Jean-Marie Le Pen, qui fait son entrée à l'Assemblée. Enfin, le 5 janvier 56, les informations s'ouvrent avec cette disparition.
Paris a fait des obsèques émues à Miss Tinguette. Cette reine du music hall s'est éteinte dans sa 83e année, après une vie passée tout entière sur les planches. Avec elle disparaît une des figures les plus célèbres de l'entre-deux-guerres. Le tout Paris des spectacles de la scène et de l'écran, mais aussi le tout Paris populaire avait tenu à faire à celle qui fut la grande Miss, le dernier pas de conduite.
On dit que la grande Miss n'est plus, c'est vrai. Heureusement, les archives gardent sa voix si reconnaissable, intacte.
On dit que j'aime les aigrettes, les plumes et les toilettes, c'est vrai. On dit que j'ai la voix qui traîne en chantant mes rengaines.
C'est très vrai. Merci Quentin. Même si le complètement d'archives est, rappelons-le quand même, un travail d'équipe, puisque concrètement, vous vous pointez Lina, vous vous levez dans un Chesterfield, vous allumez une pipe et vous attendez que les personnes qu'on va citer maintenant vous préparent les extraits.
On remercie Samia Jedi et Anne Delaveau, avec qui j'ai la chance de travailler chaque semaine. Oui, Jedi, elle s'appelle Samia Jedi. Oui, c'est formidable.
C'est très joli.
Classe. Daniel Thompson, est-ce que vous vous souvenez de la voiture de vos parents? On entendait parler du lancement de la Dauphine. Est-ce qu'il y avait une Dauphine dans le garage?
Alors, moi, ça a été ma première voiture, mais c'était en 60, puisqu'il...
Oui, 14 ans.
Mais moi, j'avais 14 ans, 56, donc moi, je me souviens très bien. Bien sûr, mon père a eu une traction avant.
Ah ouais, le gang
et
des
on descendait avant. Dans le sud de la France, dans cette traction avant. Et il y a quelques années, j'ai été reçue à l'inauguration d'un cinéma en province, et on m'avait fait la surprise... C'était pour, je crois, une projection de la Grande Vadrouille, m'avait fait la surprise de m'envoyer chercher avec une traction avant, qui étaient les voitures qui étaient déjà là pendant la guerre. Et je suis rentrée là-dedans, je me suis assise dans cette voiture, je me suis dit, mais on faisait Paris, Nice,
là-dedans.
C'était vraiment des sièges en carton, enfin c'était d'un inconfort absolu, mais c'était la première voiture, et je la trouvais merveilleuse.
Évidemment.
Mais je viens d'écouter tout ce qui s'est passé là, et je me dis, mais quand je pense que, donc j'ai pas 2 ans, moi, j'ai 14 ans, donc je vis tout ça.
Ouais, vous avez dit
j'écoutais
ça.
Toutes ces musiques, j'entendais tout ça.
Ça vous fait quoi?
Quand même un peu moins. Mais...
Oui, mais stinguette moins, ça vous fait quelque chose d'entendre ça?
Mais je n'ai pas l'impression que j'ai, Dieu sait si j'ai un grand âge, mais j'ai l'impression que j'ai 200 ans quand j'écoute ça.
Vous avez eu du vin à la cantine? Vous avez eu du vin à la cantine?
Non, mais je sais que beaucoup d'enfants avaient effectivement un petit goutte de vin dans l'eau. C'était vraiment la tradition à l'époque.
Ouais. Sympathique.
Mais ils étaient plus calmes à l'époque, après, ensuite, en cours. Daniel Thompson, Brigitte Bardot, une de nos plus grandes actrices, pour nous parler d'une de nos plus grandes actrices. Et d'ailleurs, une question qui se pose peut-être, je ne sais pas si on a le droit de la poser, mais est-ce que c'était une si grande actrice que ça, bébé? Parce que c'est tellement plus que ça, c'est une icône. Est-ce que c'était tout simplement, factuellement, une bonne comédienne?
Je crois que c'était une très très bonne comédienne.
Vous auriez aimé la faire tourner?
Oh, j'aurais adoré. Bah écoutez, il y a quand même quelques films. Alors, vous savez, les acteurs, il faut leur donner des choses à faire. Donc, des choses à dire et des dialogues, etc. Donc, dans les très bons films, dont d'ailleurs Dieu créa la femme, plus tard, évidemment, En cas de malheur, et encore plus tard, la vérité de Clouseau, puis encore plus tard, Le mépris, je cite vraiment les films qui lui ont donné la possibilité de montrer qu'elle pouvait être une grande actrice. Elle a été une grande actrice. Quand on lui demandait de faire des petites choses pas très intéressantes, ben elle faisait des petites choses pas très intéressantes. C'est comme ça que ça se passe. Mais dans les beaux textes qu'on lui a donnés, elle a été géniale.
Mais maintenant, on le voit un peu dans votre série, elle a un peu aussi été utilisée, Brigitte Bardot, par les hommes autour d'elle, sexualisée aussi, potentiellement malgré elle.
Je pense pas que c'était tellement malgré elle, parce que je pense qu'elle assumait cette sexualité démentielle qu'elle dégageait. Et bizarrement, je pense pas que c'était. On est dans un système à la MeToo où elle s'est sentie utilisée, où elle s'est sentie victimisée. Je crois pas. Je crois que justement, une des qualités de cette fille et de cette femme, c'est quand même qu'elle s'est toujours prise en main. Elle n'a pas du tout cette image de victime et de femme qui a été victime d'abus.
Elle a plutôt l'image de quelqu'un qui a joué avec
les
hommes.
Oui, on ne parle jamais de ça avec elle. Et pourtant, évidemment, il n'y a pas plus sex-symbole que ça. Mais enfin, elle l'a quand même voulu. J'ai pas cette sensation-là.
D'accord.
On parlait
il faudrait lui demander.
On parlait de. Je suis pas sûr qu'elle accepte de venir sur France Inter. On pourrait toujours lancer une invitation. On parlait du symbole qu'allait devenir Bardot à la sortie de ce film. Et le plus fou, c'est qu'elle n'avait pas du tout l'intention de devenir une égérie féministe. En 2016, elle disait à propos de la condition féminine : je m'en fous. La condition animale est beaucoup plus préoccupante. Vous pensez que c'est il y a une part de provoque aussi chez Brigitte Bardot aujourd'hui, je veux dire.
Je pense d'abord qu'elle est complètement sincère. Je crois que ce qu'elle a dit, elle le pense. Et je pense d'ailleurs que ce qui est plus sympathique, si vous voulez, c'est qu'effectivement, cette image que vous qualifiez de vieille facho tout à l'heure, qui évidemment lui a collé à la peau pendant des années et qui peut-être lui colle toujours à la peau, ça a quand même été assez atténué par justement incroyable engagement par rapport à la cause animale, dont tout le monde parle aujourd'hui, qui devient vraiment quelque chose d'actif et de très respectable. Mais quand elle a commencé à s'en occuper, où elle était encore d'ailleurs comédienne, et puis après elle a tout abandonné pour ne s'occuper que de ça, tout le monde lui riait au nez, disait qu'elle se servait de ça pour sa propre publicité, comme si elle en avait besoin. C'est un engagement qui est le sien et qui aujourd'hui a un écho très fort et qui, je crois, est en train de créer une sorte de réhabilitation politique du personnage.
Elle est en tout cas en avance sur son temps côté défense des animaux. Alors, 1956, c'était pas la toute première fois qu'on voyait Bardot à l'écran, mais c'était la toute première fois pour autre chose de très important. La pilule était créée cette année-là. Manon nous raconte. Thomas Croisière, lui, s'échauffe la voix pour ce son et lumière qui est toujours sa rétrospective cinéma. Zoom Zoom Back revient après Pierre Lapointe, Le Secret sur France Inter.
Me voilà une fois de plus sur scène à chanter pour vous l'amour, la mort, la haine. Vous êtes là à me regarder à tous vous demander pour qui mon cœur bat. Mais un homme comme moi sait qu'il faut garder pour soi ses secrets, ses envies. Non, vous ne le saurez pas. Pour qui sont mes chansons, pour qui je souris, qui est cet être à qui je dédie ma vie, avec qui je rêve de partager mon lit quand la lune arrive et que le soleil fuit. Même si j'aime bien vous parler de ce qui me plaît, si je garde pour vous le plus grand des respects, il y a certaines choses que je ne dis pas, que je t'aime. Les secrets ont cette qualité de rester muet. Mais j'avoue que j'ai un problème. Mon amour en moi se déchaîne. Mon cœur veut crier le nom de celui que j'aime. Peut-on jouer au déni avant de voir l'attente gâcher nos vies? Est-ce un crime, une honte, une calomnie de garder secrète certaines de nos envies? Il faut croire que pour moi, prendre le risque d'un refus, d'un non, je ne t'aime pas, fait trop peur, trop mal déjà. Laissez-moi vivre ma vie comme j'en ai envie. Laissez-moi seul me battre avec mes conflits. J'ai encore amplement le temps d'avoir mal, de faire d'un ex-amour un nouveau rival. Je suis un rêveur, mais pour moi la finalité n'est pas de voir chacun des rêves se réaliser. Mais seul chez moi, parfois j'en viens, oui, à me demander si je ne serais pas mieux le jour où je serai aimé. Mais j'avoue que j'ai un problème. Mon amour en moi se déchaîne. Mon cœur veut crier le nom de celui que j'aime, mais je lui en donne pas le droit.
Zoom Zoom Zen,
Mathieu Noël sur France Inter.
1956 et Dieu créa la femme, 1991 et Dieu créa la Marianoche. Morale, même Dieu peut pas réussir à tous les coups. Je plaisante, Manon.
C'est méchant,
vous
Mathieu.
Êtes mon soleil quotidien.
Ouais, ouais. On fera parler de Brigitte Bardot.
Chaque vendredi, vous nous racontez une toute première fois marquante. Et là, nous sommes donc évidemment en 1956.
États-Unis, avril 1956, un docteur américain diplômé de l'université d'Harvard crée un médicament qui va révolutionner la médecine et bien plus que ça. Il s'appelle Gregory Pincus et c'est lui qui invente la première pilule contraceptive hormonale. Pendant 5 ans, il a travaillé d'arrache-pied pour mettre au point ce médicament qui va changer la vie de millions de femmes. Et si Gregory Pincus est le biologiste qui a trouvé la formule de la pilule, il n'aurait jamais pu le faire sans l'aide de 2 femmes. D'une part, la militante féministe américaine de l'époque, Margaret Sanger, c'est à elle que l'on doit l'ouverture du planning familial. Et de l'autre côté, Katharine McCormick, milliardaire biologiste et féministe américaine, c'est elle qui finance le projet de la pilule contraceptive portée par Gregory et par Margaret. Le trio ouvre donc en 1951 le premier centre de recherche sur les hormones sexuelles à Mexico. C'est là que la formule de la pilule va être trouvée, un médicament qui va empêcher l'ovulation de la femme et la protéger d'une grossesse non désirée. Cette pilule s'appelle Enovid et sa commercialisation est autorisée aux États-Unis dès l'année suivant sa création, en 1957. Mais cette invention est loin de faire l'unanimité, notamment du côté de l'Église catholique qui ne veut pas de cette pilule. Elle la décrit comme le diable. Donc, la décision est prise de décrire Enovid non pas comme un moyen de contraception, mais comme un médicament qui va seulement réguler le cycle menstruel des femmes. Un subterfuge qui va durer 4 ans et c'est seulement en 1961 que la Food and Drug Administration va autoriser la vente du médicament en tant que pilule contraceptive.
Je vous préviens tout de suite. J'arrêterai de vous donner la pilule si vous en abusez. C'est pour votre bien, vous savez. Et c'est un fait. On a beau vivre une époque libérée, les filles faciles ne trouvent pas de mari.
Cet extrait de Mad Men est très révélateur de la mentalité de ce début des années 60. La pilule est certes autorisée aux États-Unis, mais les femmes restent soumises aux stéréotypes sexistes de l'époque. Si elles veulent la pilule, c'est forcément pour pouvoir se comporter comme des traînées qui ne se marieront jamais, même leurs propres médecins les mettent en garde. Et chez nous, en France, cette mentalité sexiste va mettre du temps à évoluer. À l'époque, la contraception est interdite dans le pays, ce qui suscite de plus en plus d'indignation, au point qu'en 1965, le candidat à l'élection présidentielle, François Mitterrand prend position pour la dépénalisation de la pilule.
Les plus grands pays du monde ont déjà accepté le contrôle des naissances. Or, qu'est-ce qui se passe en France ? Une loi de 1920 traite comme des criminels. On les condamne à de la prison, le cas échéant. Les femmes qui décident elles-mêmes de ce que doit être l'épanouissement de leur famille.
Mais il faudra attendre 1967 et le député gaulliste Lucien Neuwirth pour que les choses changent. Et ça n'a pas été facile.
Nous nous sommes heurtés à un état d'esprit conservateur, rétrograde. Je dirais aussi à un manque de clairvoyance, de discernement et peut-être de générosité. On a placé les femmes, les couples devant l'alternative accouchement-avortement sans leur expliquer, sans leur indiquer qu'il y avait autre chose.
Comme Mitterrand, Lucien Neuwirth dénonce les positions rétrogrades de l'époque dans un discours très engagé à la télévision. Il va écrire une proposition de loi pour légaliser officiellement la contraception qui sera promulguée le 28 décembre 1967. Une loi historique qui va lui valoir le surnom de Lulu, la pilule. Je le souligne, Lucien Neuwirth est un homme politique de droite. On est loin de l'image rétrograde renvoyée par certains élus du même camp politique aujourd'hui. Et évidemment, cette décision suscite des débats en France avec d'un côté les gens pour.
Je pense qu'il est beaucoup mieux d'avoir des pilules que les filles reviennent.
Comme vous dites, non. D'avoir des quantités d'avortements, oui. C'est beaucoup mieux.
Bien sûr. C'est le progrès, et puis non seulement pour les jeunes, mais même pour les gens mariés, il y en a que ça intéressera drôlement aussi.
Et de l'autre, des gens qui s'y opposent.
Ça revient toujours au même. Une fille qui prend un moyen de contraception, elle va avec un garçon, ensuite elle va avec un autre, ensuite elle va avec un autre.
Quand je connais un garçon, une heure après, je suis pas dans son lit, tout simplement. Je connais beaucoup de gamines de 16 ans qui attendent même pas une heure. Hein.
Mais malgré les clichés misogynes que l'on entend et pour certains qui perdurent encore aujourd'hui, ça fait maintenant 68 ans que la pilule a été inventée et qu'elle a réduit le nombre de grossesses non désirées. En France, elle reste le moyen de contraception le plus employé par les femmes.
Merci Manon Marianne et Daniel Thompson. Ça vous évoque quelque chose, ces débuts de la pilule, ces débuts hésitants de la pilule ?
Bien sûr, mais bien sûr. Moi, j'ai eu la chance de vivre aux États-Unis au début des années 60. Donc, je l'ai eu tout de suite. Okay. J'ai eu mes enfants quand j'ai voulu. Mitterrand dit cette phrase intéressante, il dit pour le bien-être de sa famille, quelque chose comme ça, mais c'est surtout pour son corps.
Et
en fait, je pense que, je dois dire aussi qu'une grande majorité des hommes étaient en fait terrorisés, ils avaient bien raison, parce que ça a été ça, le vrai départ du féminisme. La vraie libération des femmes, c'est ça. Et ça se passe à ce moment-là. C'est monumental aussi, ça. Et ça, encore une fois, aujourd'hui, c'est difficile à comprendre dans le contexte de l'époque où vraiment, effectivement, on est dans un autre siècle. Et ô combien. Mais ça a été vraiment quelque chose de monumental dans la vie des femmes. Et c'est absolument incroyable quand on entend les témoignages qu'on vient d'entendre.
Daniel Thompson est notre invité d'honneur cet après-midi pour zoomer sur 1956 et la naissance du mythe Bardot. Oui, on a eu un accès privilégié à la discothèque de Quentin, lui, pour préparer cette émission et on l'en remercie. Dario Moreno était fou de bébé, il n'était pas le seul. Daniel, on ne l'a pas encore évoqué, mais Brigitte Bardot, c'est aussi une chanteuse. Qu'est-ce qui lui plaisait le plus au fond, on le sait? Est-ce qu'elle préférait le cinéma ou la chanson?
Alors, elle a chanté beaucoup plus tard. Bien sûr, en 56, elle ne chante pas encore. En tout cas, elle ne chante pas encore pour enregistrer des choses et tout ça. Elle a chanté des chansons absolument merveilleuses. Je crois qu'elle a adoré ça. Et je crois qu'elle s'y est beaucoup plus amusée que sur les tournages, qui n'ont pas, apparemment, d'après ce que j'ai lu dans ses mémoires, n'ont pas laissé généralement des souvenirs formidables, alors que la chanson lui a apporté, je pense, énormément de plaisir.
Justement, si on parle d'Alan Thompson d'amusement, est-ce que Brigitte Bardot est, selon vous, quelqu'un qui s'est beaucoup amusé dans sa carrière? On a l'impression qu'elle avait un rapport, elle a toujours un rapport compliqué à la notoriété, c'est-à-dire qu'elle a été la Française la plus connue au monde, mais on n'a pas l'impression que ça allait emballer plus que ça, d'être la plus célèbre.
Non, mais elle voulait s'amuser. Et je pense que pendant toute sa jeunesse, qui a duré longtemps, je pense que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup amusé. Nous, dans notre série, on a un petit peu dramatisé, dans le sens de la dramaturgie, l'époque en question, puisqu'on va de ses 15 ans à ses 26 ans. Donc on a évidemment ressorti les moments cruciaux où en fait c'était plutôt plus douloureux, parce que c'est plus intéressant, quelqu'un qui s'amuse et qui passe du bon temps, ça ne fait pas des grandes scènes. Mais je pense que, contrairement à ce qui a pu apparaître dans la série, elle s'est énormément amusée. Et ça, c'est une des choses qui a été très critiquée. Elle adorait danser, chanter, elle s'allait en kikinette s'occuper d'un bébé, s'occuper d'un petit garçon. Elle a laissé tomber son fils parce que ça ne l'amusait pas du tout et elle n'a pas trouvé de lien avec lui. Mais enfin, je crois que c'est une femme qui s'est en tout cas beaucoup amusée. Je ne dis pas qu'elle a été heureuse, mais elle s'est amusée.
En tout cas, c'est quelqu'un qui a toujours fait ce qu'elle a voulu.
Absolument.
Elle a incarné son époque, ce film aussi, hein, en 56, c'est Dieu créa la femme. Mais l'autre héroïne du film, c'est Saint-Tropez. C'est ce film qui fait véritablement connaître le petit port de pêche qui est devenu, sur la carte des jet-setters, un endroit incroyable.
Oui, c'est-à-dire que c'est toujours, d'ailleurs, Dieu merci, il reste des endroits merveilleux à Saint-Tropez et cachés, où on retrouve les scènes de Dieu créa la femme dont vous parliez. Il y a encore des endroits préservés. C'est vrai que c'est un des endroits les plus jolis du monde. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas des magasins magnifiques et luxueux. C'était un endroit particulièrement sensuel.
Pour revenir sur la Bardot d'aujourd'hui, on l'a un peu évoqué, elle a aussi tenu des propos assez déroutants sur MeToo, je la cite. Il y a beaucoup d'actrices qui font les allumeuses avec les producteurs afin de décrocher un rôle. Ensuite, pour qu'on parle d'elles, elles viennent raconter qu'elles ont été harcelées. En tant que femme de cinéma, ça vous choque quand même d'entendre ces propos ?
Oh, écoutez, alors là, on est en train de sauter avec des énormes sauts de chevaux sur des tas d'années, des tas d'obstacles. Elle parle de son époque. Elle parle effectivement, il faut retenir la fameuse intervention de Blanche Gardin au César qui nous avait fait tous tellement rire. Et il y a que quelques années qui a osé dire, mais alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour avoir des rôles si on peut plus coucher, qui est dans la tradition de ce qu'a dit Brigitte Bardot. Donc, C'était toute cette période de, effectivement, dans le cinéma où il y avait une sorte d'entente qui n'en était pas une, mais qui en était peut-être une, où tout était plein d'ambiguïté. Il fallait séduire les metteurs en scène, il fallait séduire les producteurs. Mais alors, justement, cette histoire de séduction, jusqu'où ça va et jusqu'où va, en fait, le harcèlement, jusqu'où va. Tout ça est extrêmement flou à l'époque. Et ça devient moins flou et c'est très bien.
Oui, c'est ça, c'était une autre époque, mais aujourd'hui, vous comprenez tout à fait la position des actrices aujourd'hui qui juste ne veulent plus.
Et comment je la comprends ? Mais bien sûr, mais bien sûr.
Heureusement
que ça change et heureusement que ces choses-là maintenant sont de plus en plus régulées. Parce que par exemple, le fait, à l'époque, vous ne pouvez pas imaginer quelqu'un qui va être sur un plateau et qui va dire.
Les coordinateurs d'intimité ?
Oui, bien sûr. Donc, à partir du moment où ça n'est pas de la censure sur la création artistique, mais où ça donne aux jeunes comédiennes ou aux comédiennes tout court, parce que j'imagine que même les vieilles peuvent être tout à coup dans des situations difficiles, mais ça leur donne un confort et quelque chose qui fait que vous n'avez pas des jeunes filles terrorisées comme on peut le voir dans le film Maria sur Maria Schneider, effectivement, où on s'aperçoit comment, même s'il n'y a pas viol, pénétration, etc., on peut se sentir violé, surtout pour des jeunes filles qui arrivent tout à coup dans cet univers bizarre.
Lui, en 56, il aurait sans doute prétendu qu'il était le James Dean français, puisqu'actuellement, il essaye de nous faire croire qu'il est le Tom Cruise français. Il s'agit de Thomas Croisière, à qui j'ai demandé de nous raconter ce qu'était 1956 au cinéma.
1956 est placé sous le signe des femmes, alors que le public français découvre les jambes de Marilyn Monroe dans 7 ans de réflexion. C'est la bombe platine qui avait identifié cette pièce sur l'adultère et qui demanda à la Fox. Mais non, Ghislain, c'est notre réalisateur, pas Samantha Fox, le studio Fox.
Ah.
Voilà. Marilyn demanda donc au studio d'optionner la pièce et il en confia la réalisation à Billy Wilder. L'artiste, 6 fois oscarisé, déclara « La seule chose que je peux dire est que j'aurais aimé ne jamais avoir tourné ce film. » Un peu comme Charles Nouveau regrette d'avoir participé à la production Un des Suisses. « Viens visiter mon trou de Bâle, la ville, bien sûr. » La faute à la censure qui empêcha au réalisateur de certains Lemchaud, La Garçonnière ou Boulevard du Crépuscule, des films aussi essentiels que mon spectacle Voyage en comédie que je joue toute la semaine prochaine à l'espace Gerson de Lyon, puis au Lucernaire à Paris, de traiter de l'adultère comme il le souhaitait. Et pourtant, il créa une des scènes les plus iconiques de l'histoire du cinéma quand sur Lexington Avenue, la robe immaculée de Marilyn se soulève au-dessus d'une bouche d'aération du métro new-yorkais. Et après les jambes de M.M., ce sont celles de bébés qui affolèrent le monde. Sur le Mambo, des dieux créa la femme. En hypersexualisant Brigitte, son épouse, le réalisateur Roger Vadim crée le mythe Bardo et libère les corps, les femmes et la jeunesse. Mais 56, c'est aussi si remis en Sissi.
Franz, je vais faire quelque chose qui va peut-être te surprendre et que le cérémonial de la cour n'a pas prévu. Mais c'est pour toi et pour ton pays.
Mathieu, je vais faire quelque chose qui va peut-être te surprendre. Mais c'est pour toi et pour Annie Cordy. Yo, yo! Qu'est-ce que t'as sous ton grand chapeau? Ta yo yo.
Tu me tiens bien.
Dans ma tête, il y a des tas d'oiseaux. Car on oublie souvent que la nièce de Tata Yo-Yo tourna pour Alain René, Chabrol, Clément Sauté, Guitry, Granier de Fer. Et en 56, sous la direction de Richard Potier pour le chanteur de Mexico, elle danse le cha-cha avec quelqu'un que vous connaissez bien, Daniel Thompson, puisque vous participâtes au scénario de La Grande Vadrouille et du Cerveau, André Bourvil.
Miaou, miaou.
Miaou, miaou. Miaou, miaou. Cha, cha, cha. Mais la star de ce film d'opérette au charme désuet, qui est pour moi le chanton sous la pluie français, n'en déplaise aux auditeurs du Masque et la Plume qui sont actuellement en PLS, celui qui crève l'écran comme les tympans, en 56 se nomme Luis Mariano.
Mexico, Mexico.
Sous ton soleil qui chante. Allez tous ensemble. Le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Immense star de l'après-guerre qui avait des milliers de fans assez basques.
rapport au pays.
Oula.
Oui, pardon. Tout le monde n'a pas l'incroyable talent d'écriture de Daniel Thompson. L'As des As, la bûche, la folie des grandeurs, la reine Margot, cousin-cousine, fauteuil d'orchestre, Rabbi Jacob, la boum. Merci Daniel Thompson d'avoir créé autant de films de nos vies. Vive les femmes et...
Vive le cinéma!
De 1956.
Ah, oui. Ah, vous n'arrivez pas très très haut. Hein. C'est votre limite vocale. Merci Thomas Croisier, vous avez été bon. Alors je rappelle vos dates. Vous êtes votre spectacle Voyage en comédie est au Lucernaire à Paris jusqu'au 31 décembre. Et là, vous êtes en tournée dans toute la France, en particulier à Lyon. On l'aura compris, l'espace Gerson. C'est bien ça.
Absolument.
Du 16 au 19. Pendant les archives de l'INA, Daniel Thompson, je vous sentais un peu transporté dans cette époque. Là, avec les films et les voix de cette époque aussi, ça vous paraît loin, ça vous paraît hier. Qu'est-ce que vous ressentez?
Un peu les deux, non, ça me paraît hier, en fait, oui. Ça me paraît hier, ça a été vite.
Tout à l'heure, il nous parlera lui aussi de Brigitte Bardot dans « Et Dieu créa la femme ». Charles Nouveau, entre Brigitte Bardot, Dieu et les femmes, sur quel sujet vous sentez-vous le plus compétent?
Je ne répondrai évidemment pas à cette question provocatrice et dirai juste que j'ai hâte, après l'émission, de retourner dans mon diocèse. Mathieu.
La chronique de l'abbé Nouveau, qui fut des tons très proches de l'abbé Pierre, son mentor, c'est juste après un morceau qui nous vient de 56, Gene Vincent, Bebop Lula, sur France Inter.
Well, Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean my baby. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean my baby. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, my baby, my baby, my baby. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teams. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean my baby. Bebop Lula, she's my baby, my baby, my baby. That's right. She's the one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more, 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 more. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean my baby. Bebop Lula, she's my baby, my baby, my baby.
Let's rock again now.
Notre spécial 1956 et Dieu créa Brigitte Bardot continue. Et pour un humoriste, il y a des chroniques plus agréables à préparer que d'autres. Alors oui, on lui a donné des devoirs, mais au moins, il y avait des images. Charles Nouveau a enfin vu Et Dieu créa la femme et il a des choses à dire.
Certains intégristes veulent nous faire croire que Dieu créa la femme il y a 6000 ans. Tout amateur de cinéma français sait au contraire que c'était en 1956. Et c'est le dernier blasphème que je commettrai dans ce papier, mesdames et messieurs, afin de ne pas heurter mes chances de reconversion au sein du groupe Bolloré. 1956, sortie du film Et Dieu créa la femme, film qui est à la filmographie de Brigitte Bardot, ce que la veste Valentino Rossi est à la garde-robe de Quentin, à savoir le déclic qui a créé sa légende, ou qui en a fait en tout cas un des sex-symboles de sa génération, aux côtés de Marilyn Monroe, Raquel Welch et autres Ursula Andress. Oui, Ursula Andress, parce que même quand on pense à des poitrines du siècle dernier, Mathieu Noël, on n'oublie pas d'où on vient. Alors, je me lance dans le film, évidemment pour la première fois. Pendant le générique, mon père me dit « Tu sais que j'ai pris un cocktail avec elle en 71 ?» Hors de question de regarder la suite avec lui. Je me retrouve en compagnie d'un autre néophyte toxicomane qui, au bout de 30 minutes, me lâche «
Mais en fait, c'est l'histoire d'une meuf qui se fait traiter de timp pendant une heure et demie.
Bah, l'histoire d'une meuf qui se fait traiter de timp pendant une heure et demie. Un titre qui fut un temps considéré par le réalisateur Roger Vadim, finalement abandonné, non pas parce que c'était trop long, mais parce qu'il détestait les spoilers. Ouais, c'est pas le même degré d'émerveillement que dans les chroniques de Thomas Croisière, qui m'a dédié quelques mots tout à l'heure. Mon collègue Merwan Ben Lazar, il est intelligent, lui. Il s'invente des clashs avec des humoristes qui ont plus de followers. Moi, j'ai créé un clash avec Thomas Croisière. Je n'ai vraiment rien à y gagner. Mais revenons-en à la timpe. La pauvre Juliette, interprétée par Brigitte Bardot, convoitée par beaucoup d'hommes, mais principalement trois, tel le Ballon d'Or 2024. Et je vous préviens, si vous n'aimez pas les histoires de jeunes filles à peine majeures convoitées par des mecs qui pourraient être leur père, vous allez détester la moitié de l'histoire du cinéma. Et je sais que vous allez me dire « Oui, mais Charles, au même titre que Thomas Croisière, votre expertise cinématographique est discutable. » Et c'est vrai, je ne suis pas très doué. Au final, je ne saurais même pas vous dire exactement quel est le sujet de ce film, très honnêtement. Est-ce que c'est dédramatiser le fait de coucher avec son beau-frère, 60 ans déjà avant nos plateformes spécialisées d'aujourd'hui, tout de même? À certains moments, ça avait plus un parfum de fable préventive façon « Attention, méfiez-vous des bonnes femmes, elles peuvent vous faire faire n'importe quoi !» Notre rédacteur en chef Cyril Lacquer me glissait tout à l'heure que pour lui, c'est vraiment ça ce qui en fait une œuvre encore pertinente aujourd'hui. En se remettant dans le contexte de l'époque, on se rend compte que c'est évidemment entre autres un film sur la libération sexuelle et l'émancipation de la femme. L'absence répétée de soutien-gorge aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Aussi oppressée que puisse être Juliette dans le film, en 56, c'est une des premières fois que les gens découvraient un personnage féminin aussi libre, baladant trois hommes au gré de ses envies plutôt que des leurs. Et pourtant, même si elle a inspiré des millions de Françaises, un autre visage que Brigitte Bardot dans ce rôle, et en termes d'intrigue, il n'y a plus assez pour un court-métrage, très honnêtement. Je ne sais pas ce dont j'ai envie, je crois que j'en aime un autre. Mais tu m'emmènerais, toi, construire une vie ailleurs, à travailler pendant que je flâne, que je travaille à être heureuse? Bon, on va pas se mentir, Juliette, hein, pas si t'avais une sale tête. Hein, réalistiquement, jadis, un film sur la liberté rêvée des femmes de l'époque. Aujourd'hui, je crois que c'est surtout un film sur combien dans la vie, quand t'es beau ou belle, t'as plus de choix que quand c'est pas le cas. Et les gens ont plus de patience pour tes caprices, ça aussi. C'est toujours d'actualité.
On sent le vécu. Merci beaucoup, Charles Nouveau. On vous retrouve la semaine prochaine, déjà dans Zoom Zoom Zen, ça c'est sûr. Mais aussi, si on a envie de vous voir en vrai, en chair et en os, finalement, il faut vous voir à la Nouvelle Scène à Paris tous les samedis.
Tous les samedis, tout à fait. Avec plaisir.
Merci infiniment, Daniel Thompson, de nous avoir raconté la Bardot des débuts. Je rappelle votre série Bardot, écrite et réalisée avec votre fils, Christopher Thompson, toujours disponible sur Netflix. Et est-ce que vous avez un nouveau projet sur le feu? Là, vous revenez d'un festival de cinéma à Nice. Et qu'est-ce que vous tournez?
Donc ce sera pour...
Et vous écrivez.
Pas tout de suite.
D'accord, pas tout de suite, mais vous serez la réalisatrice de ce que vous écrivez.
J'espère.
Oui, oh bah, non, mais non, il manquerait plus que ça. Merci encore, merci à tous, Manon, Charles, Thomas, Quentin et tous vos amis de l'INA. Et surtout, merci à Cyril d'avoir fait l'aller-retour depuis Ibiza pour être là avec nous sur cette émission, sachant qu'il était parti hier après-midi et qu'il repart à l'Amnésia, là, dans la foulée. C'est beau, ce sens du devoir. Merci également à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission. Florence Gimalac, Alexia Lacour, Pierre Courade, Romain Bonifaci, Valentin Gelsomino et Gérald Arnaud. À la réalisation, c'était Ghislain Fontana. À la technique, Florian Dorimini. Je vous donne rendez-vous lundi dès 16h, retour en 2024, mais avec une touche nostalgique quand même, puisqu'on zoomera sur l'âge d'or de la pub avec quelqu'un qui s'y connaît un peu, un certain Thierry Ardisson. Zoom, zoom, zen.